Bonsoir, Père Nicolas Sautreau.
Bonsoir à vous tous. Alors, comme annoncé la semaine dernière, nous quittons les psaumes, un peu à regret, et nous nous lançons dans le Saint Triduum pascal. Et bien sûr, nous commençons avec le Jeudi Saint. Nous allons encore suivre le Père Bouillet qui nous parle cette fois-ci du mystère. Vraiment, un petit peu moins de la sagesse, un peu moins de l'art de vivre, de l'art de prier, de l'art de devenir enfant de Dieu de la façon la plus pleine possible, mais plutôt du mystère même du Christ et de la rédemption. Le Jeudi Saint, qui peut être compris avec un seul mot qui est finalement totalement intraduisible. Et ce mot, c'est tout simplement traditus. Donc c'est un mot qui vient du verbe trado en latin, et ce verbe trado va vouloir exprimer en même temps le fait de donner, de transmettre, de livrer, mais aussi il va pouvoir vouloir exprimer le fait de livrer quelqu'un en le trahissant. Et le Jeudi Saint va être comme éclairé, comme figuré par ce mot-là, traditus, le jour où le Seigneur Jésus est livré à la mort, en même temps où il est trahi, puisque traditus finira par donner le nom traditor, celui qui est le traître, mais finalement, au fur et à mesure des années qui passeront, certainement sous l'influence de l'Évangile, traditor va devenir aussi celui qui transmet, celui qui donne, celui qui fait passer l'essentiel. Traditus, livré, trahi, et en même temps, traditus, celui qui est donné, celui qui se donne, celui qui se livre, celui qui se communique lui-même et qui communique le don de Dieu. Et c'est ce mystère du Christ livré, qui est célébré d'une façon très intense dans la liturgie du Jeudi Saint. Et si nous voulons aller plus loin, dans une vision très concise, très synthétique du mystère pascal, nous pouvons utiliser simplement deux mots. Donc le Christ traditus, livré, et ensuite un mot encore plus synthétique, qui est le mot passus. Et passus, et alors là encore plus intraduisible, parce que un peu comme en hébreu, un peu comme en grec, passus va vouloir dire en même temps celui qui passe au sens de trépasser, celui qui meurt, et en même temps celui qui passe, comme dans la Pâque juive, celui qui passe des ténèbres à la lumière, de l'oppression à la liberté, de la mort à la vie éternelle. Le Christ passus, alors mis au tombeau aussi, mais simplement passus, le Christ qui est en train de passer, c'est en même temps le Vendredi Saint, le Samedi Saint et le matin de Pâques. Et ainsi, nous célébrons le Christ traditus et passus. Et voilà comment, avec deux mots, encore une fois que nous sommes un peu obligés de garder dans le latin, avec la saveur latine, avec ce côté tellement concis des verbes ou des mots en latin, voici qu'avec ces deux mots, nous abordons, avec nos petites forces, avec nos petites lumières, nous abordons l'ensemble du mystère. Et nous comprenons que il va y avoir une unité très très forte pour exprimer en même temps le Vendredi Saint et la nuit de la résurrection, puis le jour de la résurrection. Et avec le Jeudi Saint, nous sommes dans une autre célébration du mystère. C'est bien sûr le début de la célébration, mais nous sommes avec un autre mot, avec un autre mystère, avec une autre lumière, qui va être très très unie au mystère du Christ qui passe, du Christ en train de passer, mais néanmoins, c'est un petit peu comme une étape avant le passage, avant le passage pascal, si on peut se permettre un pléonasme aussi fort, mais en même temps aussi éclairant. Donc le jeudi saint, le Christ livré, en même temps que le Christ donné et transmis. Voilà comment précisément le Père Bouillet va aborder cette réalité du jeudi saint. Il affirme, vous le connaissez maintenant un petit peu, il affirme d'une manière aussi carrée, aussi forte et franche que d'habitude, que pour lui, c'est tous les textes liturgiques du jeudi saint qui s'accordent ensemble pour proposer un rapprochement inattendu, un rapprochement qu'on pourrait même oser dire contradictoire. Un rapprochement qui consiste à dire que le jeudi saint est en même temps l'heure de Jésus, voici mon heure est venue, et c'est en même temps un moment que Jésus appelle l'heure du prince des ténèbres. En même temps l'heure de Jésus, le moment où il va se donner, et l'heure où il est trahi, l'heure où il est livré à la mort. Et en effet, les textes de la liturgie du jeudi saint vont évoquer constamment, en même temps, l'action de Judas qui trahit son maître et seigneur pour 30 deniers et qui le précipite dans les souffrances et dans la mort, et évoquer en même temps l'action du Seigneur Jésus qui présente aux siens le pain rompu et le vin répandu comme son corps et son sang séparés par un sacrifice volontaire. Les deux sont réunis et les deux sont portés dans la célébration du mystère. Le jeudi saint, pour l'immense majorité d'entre nous, ce sera la messe du jeudi saint, qui va commémorer et renouveler mystiquement la dernière scène. Les deux. En même temps, c'est une commémoration, puisque nous sommes en train de fêter un anniversaire, un authentique anniversaire, et en même temps, un renouvellement mystique et sacramentel de la Sainte Cène du Seigneur Jésus. Et l'ensemble de la journée du Jeudi Saint est totalement orienté vers l'heure à laquelle nous allons célébrer ce mystère de la Sainte Cène. Une heure qui va essayer de se rapprocher le plus possible de l'histoire, de la vraie heure à laquelle, au soir, le Seigneur Jésus va instituer le mystère de l'Eucharistie. Il s'agit de l'institution de l'Eucharistie, mais en même temps de l'évocation de la trahison de Judas. Alors peut-être que nous avons tellement l'habitude d'être émerveillés par l'institution de l'Eucharistie que nous n'avons pas autant le regard tourné vers cet événement de la trahison, et qui pourtant va déclencher la suite du mystère pascal. Dans la messe elle-même, surtout dans de très anciens textes, ce qu'on appelle les textes du sacramentaire de Saint Grégoire le Grand, dans ces textes-là, eh bien, il y a une longue méditation sur la trahison. Il n'y a pas que l'évocation du Seigneur Jésus qui prend le pain et le vin et qui prononce les paroles plus que fondatrices, ceci est mon corps, ceci est mon sang, il y a la contemplation, il faut utiliser ce mot-là, la contemplation de l'événement de la trahison. Eh bien, ce rapprochement entre les deux, que nous avons osé synthétiser avec le mot traditus ou le mot traditor, ce rapprochement va renfermer tout le sens du jeudi saint. Et comme bien souvent, même si c'est difficile, nous allons devoir tenir ensemble les deux aspects du mystère. Ne pas nous laisser uniquement fascinés par un aspect, mais garder aussi présent sous nos yeux l'autre aspect, qui est l'aspect de l'heure du prince des ténèbres, de l'heure des ténèbres. Cela vient de l'évangile selon saint Luc, le chapitre 22, verset 53, où il y a ces mots placés sur les lèvres du Seigneur Jésus, « Voici votre heure et la puissance des ténèbres ». Ce n'est pas que l'heure de l'Eucharistie, c'est aussi l'heure de la puissance des ténèbres. Nous l'avons expérimenté, nous le savons par expérience chrétienne, la croix du Christ est déjà totalement présente le jeudi saint. Et la croix du Seigneur Jésus peut vraiment être considérée sous deux aspects profondément différents. Deux aspects dont l'un comprend l'autre et dont l'un éclaire l'autre. Pour utiliser des mots crus, d'un premier point de vue, la croix du Seigneur Jésus est un meurtre. Elle est un assassinat. Et les auteurs de ce meurtre, ce sont des hommes, Judas d'abord, puis les Sanhédrites, puis tous ceux qui vont à ce moment-là accepter d'être complices. Et nous le savons, par notre méditation chrétienne, les auteurs de cette mort du Seigneur Jésus, ce sont finalement tous les hommes en tant que pécheurs. C'est un grand mystère de solidarité surnaturelle, de solidarité mystique, que le fait que nous soyons, nous aussi, la cause de la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Mais il faut aller encore plus loin et découvrir et redécouvrir que derrière les personnes humaines pécheresses, il y a aussi cette puissance des ténèbres qui peut les dominer et qui peut les faire agir à sa guise. C'est ce que saint Paul exprime dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 2. S'ils avaient su que c'était le Seigneur de gloire, les puissances spirituelles, les puissances des ténèbres ne l'auraient jamais crucifié. Ce qui, lu dans l'autre sens, nous fait comprendre que les puissances des ténèbres sont là qui font agir les personnes humaines et les personnes humaines pécheresses. C'est un aspect de la croix du Seigneur Jésus, qualifié volontairement par le Père Bouillet avec un mot que nous utilisons peu, le meurtre, un meurtre. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a ce meurtre particulier, celui du Seigneur Jésus. Mais il y a un autre point de vue, c'est de dire que la croix de Jésus est le sacrifice du Seigneur Jésus et que l'auteur de ce sacrifice, c'est le Christ Seigneur en personne. C'est le moment où il se donne, où il se livre, où il se communique, le moment où il opère la réconciliation définitive entre toute la création est le Père, le moment où il opère la communion entre toute la création et le Père éternel. Du premier point de vue, la croix qui est, encore une fois, omniprésente pendant la messe du Jeudi Saint, la croix apparaît comme une nécessité extérieure au Seigneur Jésus, une nécessité à laquelle il n'a pas pu se soustraire. Et c'est d'ailleurs ce que pensaient ceux qui étaient autour de lui, s'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de sa croix. Voilà. Néanmoins, nous savons que le Christ vit cette heure comme une heure d'obéissance et d'abandon, comme une nécessité dans les desseins tellement mystérieux, le plan tellement insondable de Dieu lui-même pour sauver toute la création. Du deuxième point de vue, la croix est un acte souverainement libre au sujet duquel le Seigneur Jésus disait « Je donne ma vie, je la transmets, je la livre, personne ne me la prend, car j'ai reçu ce pouvoir du Père de donner ma vie et de la reprendre. » C'est le librement de la prière eucharistique numéro 2, au moment d'entrer librement dans sa passion. Souverainement libre. Et cela est absolument nécessaire pour que la croix soit un sacrifice et un sacrifice d'amour. Et c'est ce que signifie l'action de la scène, qui va être la réalité profonde que nous allons célébrer dans l'Eucharistie du Jeudi Saint. C'est la réalité de la scène pendant laquelle le Seigneur Jésus institue l'Eucharistie. C'est le don gratuit de sa vie pour les siens par sa mort librement acceptée. Nous sommes toujours très impressionnés par ce mystère d'anticipation. Le Christ anticipe le sacrifice de la croix, le Jeudi Saint au soir, pour nous faire vraiment comprendre et pour réaliser à quel point le sacrifice de la croix est éternel, à quel point, étant accompli par la personne éternelle du Fils, il peut être anticipé comme il pourra être renouvelé sacramentellement, rendu présent sacramentellement. Voilà une manière de présenter la célébration de la Sainte Cène le Jeudi Saint au soir. D'un côté, un certain triomphe de Satan, l'heure du prince des ténèbres, et de l'autre, l'action du sacrifice souverain de l'Éternel et du Tout-Puissant, et c'est l'heure du Fils de l'homme, l'heure du Seigneur Jésus. Eh bien, la contradiction entre les deux n'est qu'une apparence. Parce que le sacrifice du Christ est cette lutte à mort contre les puissances des ténèbres. Et cette lutte est comme la nécessaire contrepartie de la réconciliation avec Dieu. Ce que nous vivons dans cette célébration de la messe, c'est que le Christ laisse les puissances des ténèbres se déchaîner contre lui. Alors qu'il nous a bien expliqué qu'il n'aurait eu qu'un mot à dire pour les éloigner. Il les laisse se déchaîner afin de pouvoir les vaincre là où elles avaient établi leur règne et là où il était venu précisément pour déloger ce règne et y mettre à la place le règne de Dieu, c'est-à-dire dans l'homme, dans le cœur de l'homme. C'est ce que saint Paul explique, encore une fois, dans la première lettre aux Corinthiens, je redonne la référence, chapitre 2, verset 8, « Si elles avaient reconnu en Jésus le Seigneur de gloire, les puissances ne l'auraient pas crucifié. » Et comme le Seigneur Jésus le déclare à Pilate, les puissances n'auraient eu aucun pouvoir sur lui si lui, le Seigneur Jésus, ne leur avait donné d'en haut. Si la haine ne les avait pas aveuglés, si elles avaient compris ce qu'elles faisaient en exerçant ce pouvoir sur Jésus, elles n'en auraient jamais usé, car ce moment qui ressemblait à un triomphe les dépouillait elles-mêmes pour toujours. Et tout cela s'accomplit dans le mystère de l'amour divin, toujours et éternellement plus fort que les ténèbres, la haine, le péché et la mort. C'est l'amour divin qui est plus fort que tout et qui est totalement présent dans le cœur du Seigneur Jésus pendant qu'il donne sa vie sur la croix. Oui, à la croix, la mort et la vie se sont affrontées dans un combat sans exemple, un combat sans précédent. C'est ce que nous chanterons avec la séquence de Pâques, le Victime Pascali Laudes, juste avant la proclamation de l'Évangile le matin de Pâques. La vie et la mort se sont affrontées dans un combat sans précédent, où le prince de la vie, par sa mort, règne à jamais et est vivant. Et tout cela est dans le mystère du Jeudi Saint. Cette confrontation entre la trahison du traître, la méchanceté des méchants et l'amour du Christ qui se donne librement, qui se laisse faire et qui s'abandonne à la volonté du Père, tout cela est dans la célébration elle-même de la Sainte Cène et de ce qui entoure la Sainte Cène. Voilà un peu l'explication de ce fait déconcertant que la croix du Christ apparaît d'une manière si forte le Jeudi Saint, au soir, et qu'elle apparaît non pas comme la défaite du Seigneur Jésus, mais déjà comme la victoire du Christ. Et s'il fallait une preuve de cela, les premiers mots de la messe du Jeudi Saint, la phrase d'ouverture de la messe du Jeudi Saint, dit « Nous ne devons pas nous glorifier sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et cette phrase reviendra pendant toute la journée du Vendredi Saint, pendant les offices des matines, des laudes, pendant les offices du milieu de la journée, elle reviendra en permanence. « Pour nous, il faut nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates 6, 14. C'est l'explication du fait que la croix du Seigneur Jésus est vraiment ce que célèbre déjà d'une façon très plénière, très rassemblante, la messe du Jeudi Saint au soir. Ubi caritas et amor Deus ibi est. C'est le chant du Jeudi Saint pendant le rite du lavement des pieds. Où sont amour et charité, là Dieu est présent. Et ce que nous demande le Jeudi Saint, c'est de voir l'amour et la charité incréés dans le cœur du Christ pendant qu'il est en train d'instituer l'Eucharistie, comme ils seront l'instrument de la victoire définitive pendant qu'il mourra sur la croix. Il meurt par amour, il meurt en amour, et il meurt pour livrer, pour communiquer l'amour divin. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que lui-même te glorifie. Évangile selon saint Jean, chapitre 17, verset 1. Et cette glorification du Christ, c'est la croix du Christ. Mais la croix du Christ comprise dans un sens totalement johannique. Et c'est l'évangile selon saint Jean qui nous conduit pour vivre aussi le Jeudi Saint. Pas seulement la lecture de la Passion selon saint Jean le Vendredi Saint, mais déjà tout l'évangile selon saint Jean pour le Jeudi Saint. Il y a d'ailleurs une belle proposition de la liturgie catholique de prendre les chapitres 15, 16, 17, 18 de l'évangile selon saint Jean pour les méditer pendant la prière devant le Saint-Sacrement après la messe de la Sainte Cène. La croix, c'est la glorification du Christ. C'est le moment de l'heure, le moment de la gloire du Christ. Tout le culte de la croix que l'Antiquité chrétienne a connu, et là nous ne pouvons pas ne pas mentionner celui que nous fêtions ce matin, Saint Cyrille de Jérusalem, l'évêque de Jérusalem aux environs de l'an 350, qui a écrit des catéchèses baptismales pour Pâques, et qui sont incomparables. Saint Cyrille de Jérusalem, qui recueille l'héritage de la liturgie de Jérusalem, une liturgie de Pâques qui finalement sera le modèle pour l'humanité tout entière, et qui apporte sa contribution au déploiement de la liturgie du Jeudi Saint, du Vendredi Saint et de Pâques dans l'église de Jérusalem, dans les basiliques de Jérusalem. Saint Cyrille de Jérusalem nous aide à comprendre aussi comment le culte de la croix est un hymne de victoire. Tout est victoire, tout est célébration du triomphe d'amour du Christ. Les étendards du roi s'avancent, le mystère de la croix resplendit. C'est l'hymne des vêpres du temps de la Passion que, si nous le voulons, nous pouvons chanter à partir d'aujourd'hui. Les premiers chrétiens séparaient si peu la croix de la résurrection qu'ils représentaient le Christ en gloire jusque dans le crucifix. C'est vrai que si on étudie les origines du crucifix dans l'art chrétien, et si nous voyons à quel point il est d'une très haute antiquité, nous avons aussi la surprise de voir ces crucifix sur lesquels le Christ est glorieux, le Christ est triomphant. C'est bien plus tard que le Christ sur les crucifix sera représenté bien davantage comme étant humilié, écrasé et torturé. Et là, il y avait aux origines de la liturgie chrétienne et de la piété chrétienne, il y avait cette conviction issue de l'évangile selon saint Jean que le Christ sur la croix est glorieux. Il est en état de victoire, en état de communion transformante et irradié de gloire avec le Père éternel. La résurrection, à ce moment-là, n'est pas comprise comme une réparation de la croix, comme une riposte aux humiliations de la croix, une riposte divine, une riposte du Père. Non, la résurrection est comprise comme un fruit de la croix. C'est un déploiement, un accomplissement, et non pas une suprême revanche. Et si nous méditons avec honnêteté sur notre intelligence du rapport entre la résurrection du Christ et la mort du Christ sur la croix, nous pouvons critiquer un peu cette approche qui pourrait être spontanément la nôtre, qu'il s'agit vraiment de la grande revanche de Dieu le Père. Ils ont tué le Fils et le Père le ressuscite pour montrer à quel point il garde le pouvoir, il garde la main. C'est une vision un petit peu trop humaine, un petit peu trop anthropomorphique de Dieu le Père. Alors que, même si les mots sont là aussi un petit peu difficiles, dire que la résurrection est le fruit de la croix permet de garder profondément l'unité du mystère. Entre le moment où le Christ souffre et passe de la vie terrestre à la mort, et le moment où il passe des ténèbres et de l'ombre de la mort à la gloire éternelle. Pour avoir cette spiritualité, cette vision très unifiée entre le Vendredi Saint et la veillée pascale, eh bien, un des moyens est peut-être de ne pas isoler le Vendredi Saint et le Jeudi Saint. C'est, comme nous le disions, de placer le mystère de la croix au centre de la célébration de la Sainte Cène le Jeudi Saint au soir. Le Vendredi Saint, oui, ce sont les bourreaux qui agissent et le Seigneur Jésus qui souffre, qui est la victime. Mais le Jeudi Saint, parce que c'est l'heure de la Sainte Eucharistie, nous montre derrière Judas et les conséquences de son acte, le Christ qui se livre lui-même librement en sacrifice pour les hommes. Le Christ qui dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Buvez, ceci est le calice de la nouvelle alliance en mon sang, répandu en rémission des péchés pour vous et pour la multitude. » Et encore une fois, il faut regarder les deux mystères ensemble. En célébrant le Jeudi Saint, l'institution de l'Eucharistie, la liturgie du christianisme catholique nous montre sans cesse la croix du Seigneur Jésus. Et le lendemain, pendant l'adoration de la croix, le Vendredi Saint, elle nous conduit à saluer la croix comme étant l'arbre de vie, comme étant celui qui donne du fruit et celui qui donne la guérison pour toute la création, rassemblée autour de la croix du Seigneur Jésus. C'est une très belle recommandation du Père Bouillet que d'essayer de bien voir comment l'unité entre le Jeudi Saint et le Vendredi Saint va nous permettre de vivre l'unité et la continuité entre le Vendredi Saint et la nuit pascale. Oui, cette célébration de la messe du Jeudi Saint va renouveler pour nous ce que nous appelons l'heure du Christ. L'heure où, par le signe de l'Eucharistie, le Christ s'affirme comme celui qui donne à toute la création la victoire contre le mal, contre les ténèbres et contre Satan. Mais cette messe du Jeudi Saint, bien sûr, ne va pas renouveler l'institution de l'Eucharistie comme une commémoration raviverait un souvenir, ce que nous avons appelé un anniversaire. Elle va ranimer l'institution de l'Eucharistie réellement, et de telle sorte que nous puissions prendre part à l'Eucharistie. En célébrant l'Eucharistie, nous savons à quel point le Christ dit à ses apôtres « Faites ceci en mémoire de moi ». Et là, nous comprenons à nouveau comment, en anticipant sa passion et sa croix par le signe eucharistique, le Seigneur Jésus donne le sacrement qui devait reproduire pour les siens la croix et la résurrection. En anticipant, il donnait le moyen de reproduire le fruit des événements et les événements eux-mêmes après qu'ils se soient accomplis. Et en instituant l'Eucharistie, il donnait tous les sacrements à l'Église. C'est le moment de transmettre, de donner et de livrer. Ce traditus, qu'on pourrait appeler la tradition fondamentale, la tradition dans son origine la plus sainte, la plus divine, ce moment est le moment où les sacrements passent du cœur de Dieu jusque dans l'Église pour être ensuite à nouveau transmis, livré et donné. Tous les sacrements sont en germe dans l'Eucharistie parce que l'Eucharistie contient la passion et la résurrection du Sauveur. Et que les autres sacrements, nous pouvons les comprendre comme des aspects complémentaires de la victoire du Christ. Il y a une communication de la victoire du Christ dans l'Eucharistie, qui est le sacrement de tous les sacrements, et il y a des aspects complémentaires de la victoire qui sont distribués pour les hommes au bon moment, avec des grâces très adaptées dans chacun des sacrements. Le Jeudi Saint tout entier va vouloir nous redire cela, nous le mettre vraiment dans notre cœur, avec la bénédiction des huiles et du Saint-Crème. C'est dans la grande pensée d'Église, c'est le Jeudi Saint que cette messe de la bénédiction des huiles et du Saint-Crème est célébrée. C'est la liturgie du matin. Et grâce à cette liturgie de sacramentelle, éminemment sacramentelle, ce sont le baptême, la confirmation, le sacrement de l'ordre et le sacrement de l'onction des malades qui sont là très fortement le Jeudi Saint. Et dans la liturgie des origines de l'Église de Rome, il y avait un troisième grand moment de célébration qui était le moment de la réconciliation des pénitents, le moment où l'évêque donnait l'absolution sacramentelle à tous ceux qui s'étaient préparés pendant tout le carême à vivre cette réconciliation avec Dieu et avec l'Église grâce au sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Ainsi, c'est l'ensemble de ces sacrements qui sont évoqués avec force. Demeure le mariage dont nous savons qu'il a une place très particulière dans l'économie sacramentelle et qu'il va être honoré, qu'il va être célébré au moment où nous vivons l'adoration de la croix du Christ. Puisque ce mystère est grand, le mystère de l'union du Christ et de l'Église, et qu'il est la source d'un mystère plus petit, mais tellement mystérieux et tellement saint, qui est le mystère de l'union de l'homme et de la femme dans le mariage. C'est sur la croix, grâce aux noces de la croix, aux noces mystiques de l'agneau de Dieu, heureux les invités au repas des noces de l'agneau, c'est grâce aux noces mystiques de l'agneau avec toute l'Église que, jusqu'à la fin des temps, les noces d'humanité vont être bénies, sanctifiées et rendues sacramentelles. Tous les sacrements sont là. Tous les sacrements sont là dans l'institution de l'Eucharistie, au cours de laquelle la croix, elle aussi, est adorée. La croix du Christ, le sacrifice de la croix du Christ, est adoré le Jeudi Saint, comme il sera adoré d'une manière différente, mais adoré aussi pendant l'office du Vendredi Saint. Nous allons entrer dans de si grands mystères et nous allons tenter d'y entrer avec ce désir de continuité, ce désir d'unité entre tous les aspects du mystère. Et nous approchant du Vendredi Saint avec au fond de notre cœur toute la lumière du Jeudi Saint, nous savons que nous allons être portés et emportés par le Seigneur Jésus jusque dans la gloire de sa propre résurrection.
Merci Père Nicolas Sautreau et nous vous retrouvons la semaine prochaine.
Pour l'évocation du Vendredi Saint. Bonne semaine.
Merci, bonne semaine à vous. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Mystère et Sagesse. Aujourd'hui, nous avons parlé du Jeudi Saint avec le Père Nicolas Sautreau. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.